This October, Tanger invites you to shop pink and save lives. Your donation of $10 or more to the Breast Cancer Research Foundation helps fuel innovative research that brings us closer to a cure. It also unlocks exclusive savings from brands like Coach, Crocs, Columbia Factory Store, and more to shop all month long. Join us as we mark 30 years of advancing research and empowering hope. Donate and access your exclusive savings today at Tanger.com.
Chapitre 4 du roman de la momie par Théophile Gautier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 4. Le pharaon arriva devant son palais, situé à peu de distance du champ de manœuvre sur la rive gauche du Nil. Dans la transparence bleuâtre de la nuit, l'immense édifice prenait des proportions encore plus colossales et découpait ses angles énormes sur le fond violet de la chaîne libyque, avec une vigueur effrayante et sombre. L'idée d'une puissance absolue s'attachait à ces masses inébranlables, sur lesquelles l'éternité semblait devoir glisser comme une goutte d'eau sur un marbre. Une grande cour entourée d'épaisses murailles, ornées à leur sommet de profondes moulures, précédait le palais. Au fond de cette cour se dressaient deux hautes colonnes à chapiteaux de palmes, marquant l'entrée d'une seconde enceinte. Derrière les colonnes s'élevait un pylône gigantesque composé de deux monstrueux massifs, enserrant une porte monumentale plutôt faite pour laisser passer des colosses de granit que des hommes de chair. Au-delà de ces propylées, remplissant le fond d'une troisième cour, le palais proprement dit apparaissait avec sa majesté formidable. Deux avant-corps pareils aux bastions d'une forteresse se projetaient carrément, offrant sur leur face des bas-reliefs méplats d'une dimension prodigieuse qui représentaient sous la forme consacrée le pharaon vainqueur flagellant ses ennemis et les foulant aux pieds. Pages d'histoire démesurées, écrites au ciseau sur un colossal livre de granit et que la postérité la plus reculée devait lire. Ces pavillons dépassaient de beaucoup la hauteur du pylône et leurs corniches évasées et crénelées de merlons s'arrondissaient orgueilleusement sur la crête des montagnes libyques, dernier plan du tableau. Reliant l'un à l'autre, la façade du palais occupait tout l'espace intermédiaire. Au-dessus de sa porte géante, flanquée de sphinx, flamboyaient trois étages de fenêtres carrées, trahissant au dehors l'éclairage intérieur et découpant sur la paroi sombre une sorte de damier lumineux. Au premier étage saillaient des balcons soutenus par des statues de prisonniers accroupis sous la tablette. Les officiers de la maison du roi, les eunuques, les serviteurs, les esclaves, prévenus de l'approche de sa majesté par la fanfare des clairons et le roulement des tambours, s'étaient portés à sa rencontre et l'attendaient agenouillés ou prosternés sur le dallage des cours. Des captifs de la mauvaise race de Chéto portaient des urnes remplies de sel et d'huile d'olive, où trempait une mèche dont la flamme crépitait vive et claire, et se tenaient rangés en ligne de la porte du palais à l'entrée de la première enceinte, immobiles comme des lampadaires de bronze. Bientôt la tête du cortège pénétra dans le palais, et, répercutés par les échos, les clairons et les tambours résonnèrent avec un fracas qui fit s'envoler les ibis endormis sur les entablements. Les oëris s'arrêtèrent à la porte de la façade, entre les deux pavillons. Des esclaves apportèrent un escabeau à plusieurs marches et le placèrent à côté du brancard. Le pharaon se leva avec une lenteur majestueuse et se tint debout quelques secondes dans une immobilité parfaite. Ainsi monté sur ce socle d'épaules, il planait au-dessus des têtes et paraissait avoir 12 coudées. Éclairé bizarrement, moitié par la lune qui se levait, moitié par la lueur des lampes, sous ce costume dont les dorures et les émaux scintillaient brusquement, il ressemblait à Osiris, ou plutôt à Typhon. Il descendit les marches d'un pas de statue et pénétra enfin dans le palais. Une première cour intérieure, encadrée d'un rang énorme de piliers bariolés d'hiéroglyphes et soutenant une frise terminée en volute, fut traversée lentement par le pharaon, au milieu d'une foule d'esclaves et de servantes prosternées. Une autre cour se présenta ensuite, entourée d'un promenoir couvert et de colonnes trapues portant pour chapiteau un dé de granit sur lequel pesait une massive architrave. Un caractère d'indestructibilité était écrit dans les lignes droites et les formes géométriques de cette architecture bâtie avec des quartiers de montagne. Les piliers et les colonnes semblaient se piéter puissamment pour soutenir le poids des immenses pierres appuyées sur les cubes de leurs chapiteaux. Les murs se renversèrent en talus afin d'avoir plus d'assiettes et les assises se joindre de façon à ne former qu'un seul bloc. Mais des décorations polychromes, des bas-reliefs en creux, rehaussés de teintes plates d'un vif éclat, donnaient, dans le jour, de la légèreté et de la richesse à ces énormes masses qui, la nuit, reprenaient toute leur carrure. Sur la corniche de style égyptien, dont la ligne inflexible tranchait dans le ciel un vaste parallélogramme d'azur foncé, tremblotaient au souffle intermittent de la brise des lampes allumées de distance en distance. Le vivier, placé au milieu de la cour, mêlait en les reflétant leurs étincelles rouges aux étincelles bleues de la lune. Des rangées d'arbustes plantés autour du bassin dégageaient leurs parfums faibles et doux. Au fond s'ouvrait la porte du gynécée et des appartements secrets, décorés avec une magnificence toute particulière. Au-dessous du plafond régnait une frise d'uréus dressée sur la queue et gonflant la gorge. Sur l'entablement de la porte, dans la courbure de la corniche, le globe mystique déployait ses immenses ailes imbriquées. Des colonnes disposées en lignes symétriques supportaient d'épaisses membrures de granit formant des soffites dont le fond bleu était constellé d'étoiles d'or. Sur les murailles, de grands tableaux découpés dans la paroi de granit et coloriés des teintes les plus brillantes représentaient les occupations familières du gynécée et les scènes de la vie intime. On y voyait Pharaon sur son trône et jouant gravement aux échecs avec une de ses femmes se tenant nue et debout devant lui, la tête ceinte d'un large bandeau d'où s'épanouissaient en gerbes des fleurs de lotus. Dans un autre tableau, le Pharaon, sans rien perdre de son impassibilité souveraine et sacerdotale, allongeait la main et touchait le menton d'une jeune fille, vêtue d'un collier et d'un bracelet, qui lui présentait un bouquet à respirer. Ailleurs, on l'apercevait incertain et souriant, comme s'il eût malicieusement suspendu son choix, au milieu des jeunes reines agaçant sa gravité par toutes sortes de coquetteries caressantes et gracieuses. D'autres panneaux représentaient des musiciennes et des danseuses, des femmes au bain, inondées d'essence et massées par des esclaves, avec une élégance de pose, une suavité juvénile de forme et une pureté de traits qu'aucun art n'a dépassé. Des dessins d'ornementation d'un goût riche et compliqué, d'une exécution parfaite, où se mariaient le vert, le rouge, le bleu, le jaune, le blanc, couvraient les espaces laissés vides. Dans des cartouches et des bandes allongées en stèles, se lisaient les titres du pharaon et des inscriptions en son honneur. Sur le fût des énormes colonnes tournaient des figures décoratives ou symboliques, coiffées du pchent, armées du tau, qui se suivaient processionnellement et dont l'œil, dessiné de face sur une tête de profil, semblait regarder curieusement dans la salle. Des lignes d'hiéroglyphes perpendiculaires séparaient les zones de personnages. Parmi les feuilles vertes découpées sur le tambour du chapiteau, des boutons et des calices de lotus se détachaient avec leurs couleurs naturelles et simulaient des corbeilles fleuries. Entre chaque colonne, une selle élégante de bois de cèdre peint et doré soutenait sur sa plateforme une coupe de bronze remplie d'huile parfumée où les mèches de coton puisaient une clarté odorante. Des groupes de vases allongés et reliés par des guirlandes alternaient avec les lampes et faisaient épanouir au pied des colonnes des gerbes aux barbes d'or, mêlées d'herbes des champs et de plantes balsamiques. Au milieu de la salle, une table ronde en porphyre, dont le disque était supporté par une figure de captif, disparaissait sous un entassement d'urnes, de vases, de buires, de pots, d'où jaillissait une forêt de fleurs artificielles gigantesques. Car des fleurs vraies eussent semblé mesquines au centre de cette salle immense, et il fallait mettre la nature en proportion avec le travail grandiose de l'homme. Les plus vives couleurs, jaune d'or, azur, pourpre, diaprait des calices énormes. Au fond s'élevait le trône ou fauteuil du pharaon, dont les pieds croisés bizarrement et retenus par des nervures enroulées contenaient, dans l'ouverture de leurs angles, quatre statuettes de prisonniers barbares asiatiques ou africains, reconnaissables à leur physionomie et à leurs vêtements. Ces malheureux, les coudes noués derrière le dos, à genoux dans une posture incommode, le corps tendu, portaient sur leur tête humiliée le coussin quadrillé d'or, de rouge et de noir, où s'asseyait leur vainqueur. Des mufles d'animaux chimériques, dont la gueule laissait échapper en guise de langue une longue houppe rouge, ornaient les traverses du siège. De chaque côté du trône étaient rangés, pour les princes, des fauteuils moins riches, mais encore d'une élégance extrême et d'un caprice charmant. Car les Égyptiens ne sont pas moins adroits à sculpter le bois de cèdre, de cyprès et de sycomore, à le dorer, à le colorier, à l'incruster d'émaux, qu'à tailler dans les carrières de Philoé ou de Sienne de monstrueux blocs granitiques pour les palais des pharaons et le sanctuaire des dieux. Le roi traversa la salle d'un pas lent et majestueux, sans que ses paupières teintes eussent palpité une fois. Rien n'indiquait qu'il entendît les cris d'amour qui l'accueillaient, ou qu'il aperçut les êtres humains agenouillés ou prosternés, dont les plis de sa calas iris effleuraient le front en écumant autour de ses pieds. Il s'assit les chevilles jointes et les mains posées sur les genoux, dans l'attitude solennelle des divinités. Les jeunes princes, beaux comme des femmes, prirent place à la droite et à la gauche de leur père. Des serviteurs les dépouillèrent de leurs gorgerins d'émaux, de leurs ceinturons et de leurs glaives, versèrent sur leurs cheveux des flacons d'essence, leur frottèrent les bras d'huiles aromatiques et leur présentèrent des guirlandes de fleurs, frais colliers de parfums, luxe odorant, mieux accommodé au fait que la lourde richesse de l'or, des pierres précieuses et des perles, et qui, du reste, s'y marie admirablement. De belles esclaves nues, dont le corps svelte offrait le gracieux passage de l'enfance à l'adolescence, les hanches cerclées d'une mince ceinture qui ne voilait aucun de leurs charmes, une fleur de lotus dans les cheveux, une buire d'albâtre rubanée à la main, s'empressaient timidement autour du pharaon, et répandait l'huile de palme sur ses épaules, ses bras et son torse polis comme le jaspe. D'autres servantes agitaient autour de sa tête de larges éventails de plumes d'autruche peintes, ajustés à des manches d'ivoire ou de bois de santal qui, échauffées par leurs petites mains, dégageaient une odeur délicieuse. Quelques-unes élevaient à la hauteur des narines du pharaon des tiges de nymphéa au calice épanoui comme la coupe des amchirs. Tous ces soins étaient rendus avec une dévotion profonde et une sorte de terreur respectueuse, comme à une personne divine, immortelle, descendue par pitié des zones supérieures parmi le vil troupeau des hommes. Car le roi est le fils des dieux, le favori de Phré, le protégé d'Amon-Ra. Les femmes du gynécée s'étaient relevées de leur prostration et assises sur de beaux fauteuils sculptés, dorés et peints, aux coussins de cuir rouge gonflés avec de la barbe de chardon. Rangées ainsi, elles formaient une ligne de tête gracieuse et souriante que la peinture eût aimé à reproduire. Les unes avaient pour vêtements des tuniques de gaze blanche, à raies alternativement opaques et transparentes, dont les manches courtes mettaient à nu un bras mince et rond, couvert de bracelets du poignet au coude. Les autres, nues jusqu'à la ceinture, portait une cotte lilas tendre, striée de bandes plus foncées, recouverte d'un filet de petits tubes en verre rose, laissant voir entre leurs losanges le cartouche du pharaon tracé sur l'étoffe. D'autres avaient la jupe rouge et le filet en perles noires. Celle-ci, drapée d'un tissu aussi léger que l'air tramé, aussi translucide que du verre, entournait les plis autour d'elle, s'arrangeant de façon à faire sortir coquettement le contour de leur gorge pure. Celles-là s'emprisonnaient dans un fourreau papelonné d'écailles bleues, vertes et rouges, qui moulaient exactement leur forme. Il y en avait aussi dont les épaules étaient couvertes d'une sorte de mante plissée et qui serraient au-dessous du sein, par une ceinture à bout flottant, leur longue robe garnie de franges. Les coiffures n'étaient pas moins variées. Tantôt les cheveux nattés s'effilaient en spirale, Tantôt, ils se divisaient en trois masses, dont l'une s'allongeait sur le dos, et les deux autres tombaient de chaque côté des joues. De volumineuses perruques à petites boucles fortement crêpées, à innombrables cordelettes maintenues transversalement par des fils d'or, des rangs d'émaux ou de perles, s'ajustaient comme des casques à des têtes jeunes et charmantes, qui demandaient à l'art un secours inutile à leur beauté. Toutes ces femmes tenaient à la main une fleur de lotus bleu, rose ou blanche, et respiraient amoureusement, avec des palpitations de narines, l'odeur pénétrante qui s'exhalait du large calice. Une tige de la même fleur, partant de leur nuque, se courbait gracieusement sur leur tête et allongeait son bouton entre leurs sourcils rehaussés d'antimoine. Devant elles, des esclaves noires ou blanches, n'ayant d'autres vêtements que le cercle lombaire, leur tendaient des colliers fleuris tressés de crocus, dont la fleur, blanche en dehors et jaune en dedans, de carthames couleur de pourpre, d'héliochryse couleur d'or, de trichos à baies rouges, de myosotis aux fleurs qu'on croirait faites avec l'émail bleu des statuettes d'Isis, de népenthès dont l'odeur enivrante fait tout oublier jusqu'à la patrie lointaine. À ces esclaves, d'autres succédaient qui, sur la paume de leur main droite renversée, portaient des coupes d'argent ou de bronze pleines de vin, et de la gauche tenaient une serviette où les convives s'essuyaient les lèvres. Ces vins étaient puisés dans des amphores d'argile, de verre ou de métal, que contenaient d'élégants paniers clissés, posant sur des bases à quatre pieds, faites d'un bois léger et souple, entrelaçant ses courbures d'une manière ingénieuse. Les paniers contenaient sept sortes de vins, de dattiers, de palmiers et de vignes, du vin blanc, du vin rouge, du vin vert, du vin nouveau, du vin de Phénicie et de Grèce, du vin blanc de Maréotique, au bouquet de violettes. Le pharaon prit aussi la coupe des mains de l'échanson debout près de son trône et trempa ses lèvres royales au breuvage fortifiant. Alors résonnèrent les harpes, les lyres, les doubles flûtes, les mandores, accompagnant un chant triomphal qu'accentuaient les choristes rangés en face du trône, un genou en terre et l'autre relevé, en frappant la mesure avec la paume de leurs mains. Le repas commença. Les mets, apportés par des Éthiopiens des immenses cuisines du palais, où 1000 esclaves s'occupaient dans une atmosphère de flammes des préparations du festin, étaient placés sur des guéridons à quelque distance des convives. Les plats de bronze, de bois odorant précieusement sculptés, de terre ou de porcelaine émaillée de couleurs vives, contenaient des quartiers de bœuf, des cuisses d'antilope, des oies troussées, des silures du Nil, des pâtes étirées en longs tuyaux et roulées, des gâteaux de sésame et de miel, des pastèques vertes à pulpe rose, des grenades pleines de rubis, des raisins couleur d'ambre ou d'améthyste. Des guirlandes de papyrus couronnaient ces plats de leur feuillage vert. Les coupes étaient également cerclées de fleurs, et au centre des tables, du milieu d'un amoncellement de pains à croûte blonde, estampés de dessins et marqués d'hiéroglyphes, s'élançait un long vase d'où retombait, élargi en ombrelle, une monstrueuse gerbe de persolutas, de myrte, de grenadier, de convolvulus, de chrysanthème, d'héliotrope, de sérifium et de périplocas, mariant toutes les couleurs, confondant tous les parfums. Sous les tables mêmes, autour du socle, étaient rangés des pots de lotus. Des fleurs, des fleurs, des fleurs, encore des fleurs, partout des fleurs. Il y en avait jusque sous les sièges des convives. Les femmes emportaient au bras, au col, sur la tête, en bracelets, en colliers, en couronnes. Les lampes brûlaient au milieu d'énormes bouquets. Les plats disparaissaient dans les feuillages. Les vins pétillaient, entourés de violettes et de roses. C'était une gigantesque débauche de fleurs, une colossale orgie aromale, d'un caractère tout particulier, inconnu chez les autres peuples. À chaque instant, des esclaves apportaient des jardins, qu'ils dépouillaient sans pouvoir les appauvrir, des brassées de clématites, de lauriers roses, de grenadiers, de xéranthèmes, de lotus, pour renouveler les fleurs fanées déjà, tandis que des serviteurs jetaient sur les charbons des amchirs des grains de nard et de cinnamome. Lorsque les plats et les boîtes sculptées en oiseaux, en poissons, en chimères, qui contenaient les sauces et les condiments, furent emportés ainsi que les spatules d'ivoire, de bronze ou de bois, les couteaux d'airain ou de silex. Les convives se lavèrent les mains, et les coupes de vin ou de boissons fermentées continuèrent à circuler. Les chansons puisaient, avec un godet de métal armé d'un long manche, le vin sombre et le vin transparent dans deux grands vases d'or ornés de figures de chevaux et de béliers, que des trépieds maintenaient en équilibre devant le pharaon. Des musiciennes parurent, car le chœur des musiciens s'était retiré. Une large tunique de gaze couvrait leurs corps sveltes et jeunes, sans plus les voiler que l'eau pure d'un bassin ne dérobe les formes de la baigneuse qui s'y plonge. Une guirlande de papyrus nouait leur épaisse chevelure et se prolongeait jusqu'à terre en brindilles flottantes. Une fleur de lotus s'épanouissait au sommet de leur tête. De grands anneaux d'or scintillaient à leurs oreilles. Un gorgerin d'émaux et de perles cerclait leur col et des bracelets se heurtaient en bruissant sur leurs poignets. L'une jouait de la harpe, l'autre de la mandore, la troisième de la double flûte, que manœuvraient ses bras bizarrement croisés, le droit sur la flûte gauche, le gauche sur la flûte droite. La quatrième appliquait horizontalement contre sa poitrine une lyre à cinq cordes. La cinquième frappait la peau d'onagre d'un tambour carré. Une petite fille de 7 ou 8 ans, nue, coiffée de fleurs, sanglée d'une ceinture, frappant ses mains l'une contre l'autre, battait la mesure. Les danseuses firent leur entrée. Elles étaient minces, élancées, souples comme des serpents. Leurs grands yeux brillaient entre les lignes noires de leurs paupières, leurs dents de nacre entre les lignes rouges de leurs lèvres. De longues spirales de cheveux leur flagellaient les joues. Quelques-unes portaient une ample tunique rayée de blanc et de bleu, nageant autour d'elles comme un brouillard. Les autres n'avaient qu'une simple cotte plissée, commençant aux hanches et s'arrêtant aux genoux, qui permettait d'admirer leurs jambes élégantes et fines, leurs cuisses rondes, nerveuses et fortes. Elles exécutèrent d'abord des poses d'une volupté lente, d'une grâce paresseuse. Puis, agitant des rameaux fleuris, choquant des cliquettes de bronze à tête d'Hâthor, heurtant des timbales de leurs petits poings fermés, faisant ronfler sous leurs pouces la peau tannée des tambourins, elles se livrèrent à des pas plus vifs, à des cambrures plus hardies. Elles firent des pirouettes, des jetés battus, et tourbillonnèrent avec un entrain toujours croissant. Mais le pharaon, soucieux et rêveur, ne daigna leur donner aucun signe d'assentiment. Ses yeux fixes ne les avaient même pas regardés. Elles se retirèrent, rougissantes et confuses, pressant de leurs mains leur poitrine haletante. Des nains aux pieds tors, aux corps gibbeux et difformes, dont les grimaces avaient le privilège de dérider la majesté granitique du pharaon, n'eurent pas plus de succès. Leurs contorsions n'arrachèrent pas un sourire à ses lèvres, dont les coins ne voulaient pas se relever. Au son d'une musique bizarre composée de harpes triangulaires, de sistres, de cliquettes, de cymbales et de clairons, des bouffons égyptiens, coiffés de hautes mitres blanches de forme ridicule, s'avancèrent, deux doigts de la main fermée, les trois autres étendus, répétant leurs gestes grotesques avec une précision automatique et chantant des chansons extravagantes entremêlées de dissonances. Sa majesté ne sourcilla pas. Des femmes coiffées d'un petit casque d'où pendaient trois longs cordons terminés en houppe, les chevilles et les poignets cerclés de bandes de cuir noir, vêtues d'un étroit caleçon retenu par une bretelle unique passant sur l'épaule, exécutèrent des tours de force et de souplesse plus surprenants les uns que les autres, se cambrant, se renversant, ployant comme une branche de saule leur corps disloqué, touchant le sol de leur nuque sans déplacer leurs talons, supportant, dans cette pose impossible, le poids de leur compagne. D'autres jonglèrent avec une boule, deux boules, trois boules, en avant, en arrière, les bras croisés, à cheval ou debout sur les reins d'une des femmes de la troupe. Une même, la plus habile, se mit des œillères comme Tméi, déesse de la justice, pour se rendre aveugle, et reçut les globes dans ses mains sans en laisser tomber un seul. Ces merveilles laissèrent le pharaon insensible. Il ne prit pas plus de goût aux prouesses de deux combattants qui, le bras gauche garni d'un ceste, s'escrimaient avec des bâtons. des hommes lançant dans un bloc de bois des couteaux dont la pointe se fichait à la place désignée d'une façon miraculeusement précise, ne l'amusèrent pas davantage. Il repoussa même l'échiquier que lui présentait en s'offrant pour adversaire la belle Twéa, qu'ordinairement il regardait d'un œil favorable. En vain Amensé, Taïa, Hontréché essayèrent quelques caresses timides. Il se leva et se retira dans ses appartements sans avoir prononcé un mot. Immobile sur le seuil, se tenait le serviteur qui avait, pendant le défilé triomphal, remarqué l'imperceptible geste de Sa Majesté. Il dit « Ô roi aimé des dieux, je me suis détaché du cortège, j'ai traversé le Nil sur une frêle barque de papyrus, et j'ai suivi la cange de la femme sur laquelle ton regard d'épervier a daigné s'abattre. C'est Tahoser, la fille du prêtre Pétamounoph. » Le pharaon sourit et dit « Bien, je te donne un char et ses chevaux, un pectoral en grains de lapis-lazuli et de cornaline, avec un cercle d'or pesant autant que le poids de basalte vert. » Cependant les femmes désolées arrachaient les fleurs de leur coiffure, déchiraient leurs robes de gaze et sanglotaient étendues sur les dalles polies qui reflétaient comme des miroirs l'image de leur beau corps, en disant « Il faut qu'une de ces maudites captives barbares ait pris le cœur de notre maître. » Fin du chapitre 4. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en juin 2011. Chapitre 5 du roman de la momie par Théophile Gautier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5. Sur la rive gauche du Nil s'étendait la villa de Poëri, le jeune homme qui avait tant troublé Tahoser lorsque, en allant voir la rentrée triomphale du pharaon, elle était passée dans son char, traînée par des bœufs, sous le balcon où s'appuyait indolemment le beau rêveur. C'était une exploitation considérable, tenant de la ferme et de la maison de plaisance, et qui occupait, entre les bords du fleuve et les premières croupes de la chaîne libyque, une vaste étendue de terrain que recouvrait, à l'époque de l'inondation, l'eau rougeâtre chargée du limon fécondant, et dont, pendant le reste de l'année, des dérivations habilement pratiquées entretenaient la fraîcheur. Une enceinte de murs en pierre calcaire, tirée des montagnes voisines, enfermait le jardin, les greniers, le cellier et la maison. Ces murs, légèrement inclinés en talus, étaient surmontés d'un acrotère à pointe de métal, capable d'arrêter quiconque eût essayé de les franchir. Trois portes, dont les valves s'accrochaient à de massifs piliers, décoré chacun d'une gigantesque fleur de lotus plantée au sommet de son chapiteau, coupait la muraille sur trois de ses pans. À la place de la quatrième porte s'élevait le pavillon, regardant le jardin par une de ses façades et la route par l'autre. Ce pavillon ne ressemblait en aucune manière aux maisons de Thèbes. L'architecte qui l'avait bâti n'avait pas cherché la forte assiette, les grandes lignes monumentales, les riches matériaux des constructions urbaines, mais bien une élégance légère, une simplicité fraîche, une grâce champêtre en harmonie avec la verdure et le repos de la campagne. Les assises inférieures, que le Nil pouvait atteindre dans ses hautes crues, étaient en grès et le reste en bois de sycomore. De longues colonnes évidées, d'une extrême sveltesse, pareilles aux hampes qui portent des étendards devant les palais du roi, partaient du sol et filaient d'un seul jet jusqu'à la corniche à palmettes, évasant sous un petit cube leurs chapiteaux en calice de lotus. L'étage unique élevé au-dessus du rez-de-chaussée n'atteignait pas les moulures bordant le toit en terrasse et laissait ainsi un étage vide entre son plafond et la couverture horizontale de la villa. De courtes colonnettes à chapiteaux fleuris, séparées de quatre en quatre par les longues colonnes, formait une galerie à claire-voie autour de cette espèce d'appartement aérien ouvert à toutes les brises. Des fenêtres plus larges à la base qu'au sommet de leur ouverture, suivant le style égyptien, et se fermant avec de doubles vantaux, donnaient du jour au premier étage. Le rez-de-chaussée était éclairé par des fenêtres plus étroites et plus rapprochées. Au-dessus de la porte, décorée de deux moulures d'une forte saillie, se voyait une croix plantée dans un cœur et encadrée par un parallélogramme tronqué à sa partie inférieure pour laisser passer ce signe de favorable augure dont le sens, comme chacun sait, est la bonne maison. Toute cette construction était peinte de couleurs tendres et riantes. Les lotus des chapiteaux s'échappaient alternativement bleus et roses de leurs capsules vertes. Les palmettes des corniches, colorées d'un vernis d'or, s'inscrivaient sur un fond d'azur. Les parois blanches des façades faisaient valoir les encadrements peints des fenêtres et des filets de rouge et de vert prasin dessinaient des panneaux ou simulaient des joints de pierre. En dehors du mur d'enceinte, qu'affleurait le pavillon, se dressait une rangée d'arbres taillés en pointe et formant un rideau pour arrêter le vent poudreux du sud, toujours chargé des ardeurs du désert. Devant le pavillon verdoyait une immense plantation de vignes. Des colonnes de pierre aux chapiteaux de lotus, symétriquement distancées, dessinaient dans le vignoble des allées qui se coupaient à angle droit. Les ceps jetaient de l'une à l'autre leurs guirlandes de pampres et formaient une suite d'arceaux en feuillage sous lesquels on pouvait se promener la tête haute. La terre, ratissée avec soin et ramenée en monticule au pied de chaque plant, faisait ressortir par sa couleur brune le vert gai des feuilles où jouaient des oiseaux et des rayons. De chaque côté du pavillon, deux bassins oblongs laissaient flotter sur leurs miroirs transparents des fleurs et des oiseaux aquatiques. Aux angles de ces bassins, quatre grands palmiers déployaient comme une ombrelle, à l'extrémité de leurs troncs sculptés en étaille, leur verte auréole de feuilles. Des compartiments, régulièrement tracés par des sentiers étroits, divisaient le jardin autour du vignoble, marquant la place à chaque culture. Dans une sorte d'allée de ceinture qui permettait de faire le tour de l'enclos, les palmiers doum alternaient avec les sycomores. Des carrés étaient plantés de figuiers, de pêchers, d'amandiers, d'oliviers, de grenadiers et autres arbres à fruits. Des portions n'avaient reçu que des arbres d'agrément, tamarix, acacia, cassis, myrte, mimosa et quelques essences plus rares trouvées au-delà des cataractes du Nil, sous le tropique du Cancer, dans les oasis du désert libyque et sur les bords du golfe Érythrée. Car les Égyptiens sont très adonnés à la culture des arbustes et des fleurs, et ils exigent les espèces nouvelles comme tribut des peuples conquis. Des fleurs de toutes sortes, des variétés de pastèques, des lupins, des oignons, garnissaient les plates-bandes. Deux autres pièces d'eau d'une dimension plus grande, alimentées par un canal couvert venant du Nil, portaient chacune une petite barque pour faciliter au maître de la maison le plaisir de la pêche. Car des poissons de formes diverses et de couleurs brillantes se jouaient dans leur eau limpide à travers les tiges et les larges feuilles des lotus. Des masses de végétation luxuriante entouraient ces pièces d'eau et se renversaient dans leur vert miroir. Près de chaque bassin s'élevait un kiosque formé de colonnettes, supportant un toit léger et entouré d'un balcon à claire-voie, où l'on pouvait jouir de la vue des eaux et respirer la fraîcheur du matin et du soir, à demi couchés sur des sièges rustiques de bois et de joncs. Ce jardin, éclairé par le soleil naissant, avait un aspect de gaieté, de repos et de bonheur. Le vert des arbres était si vivace, les nuances des fleurs si éclatantes, l'air et la lumière baignaient si joyeusement la vaste enceinte de souffles et de rayons, le contraste de cette riche verdure avec la blancheur décharnée et l'aridité crayeuse de la chaîne libyque, qu'on apercevait par-dessus les murs déchiquetant sa crête sur la teinte bleue du ciel, était tellement tranché qu'on se sentait le désir de s'arrêter là et d'y planter sa tente. On eût dit un nid fait tout à souhait pour un bonheur rêvé. Dans les allées marchaient des serviteurs portant sur leur épaule une barre de bois courbée, aux extrémités de laquelle pendaient à des cordes deux pots d'argile remplis au réservoir, dont ils versaient le contenu dans le petit bassin creusé au pied de chaque plante. D'autres, manœuvrant un vase suspendu à une perche jouant sur un poteau, alimentaient une rigole de bois distribuant l'eau aux terres les plus altérées du jardin. Des tondeurs taillaient les arbres et leur donnaient une forme ronde ou ellipsoïde. À l'aide d'une houe faite de deux pièces de bois dur reliées par une corde formant crochet, des travailleurs penchés ameublissaient le sol pour quelques plantations. C'était un spectacle charmant de voir ces hommes à la noire chevelure crépue, au torse couleur de brique, vêtus d'un simple caleçon blanc, aller et venir parmi les feuillages, avec une activité sans désordre, en chantant une chanson rustique qui rythmait leurs pas. Les oiseaux perchés sur les arbres paraissaient les connaître et s'envolaient à peine lorsqu'en passant, ils frôlaient une branche. La porte du pavillon s'ouvrit et Poëri parut sur le seuil. Quoiqu'il fût vêtu à la mode égyptienne, ses traits ne se rapportaient pas cependant au type national et il n'eût pas fallu l'observer longtemps pour voir qu'il n'appartenait point à la race autochtone de la vallée du Nil. Ce n'était pas assurément un Rottenérôme. Son nez aquilin et mince, ses joues aplanies, ses lèvres sérieuses et d'un dessin serré, l'ovale parfait de sa figure, différaient essentiellement du nez africain, des pommettes saillantes, de la bouche épaisse et du masque large que présentent habituellement les Égyptiens. La coloration non plus n'était pas la même. La teinte de cuivre rouge était remplacée par une pâleur olivâtre que nuançait imperceptiblement de rose un sang riche et pur. Les yeux, au lieu de rouler entre leurs lignes d'antimoine une prunelle de jais, étaient d'un bleu sombre comme le ciel de la nuit. Les cheveux, plus soyeux et plus doux, se crêpaient en ondulations moins rebelles. Les épaules n'offraient pas cette ligne transversalement rigide que répètent, comme signe caractéristique de la race, les statues des temples et les fresques des tombeaux. Toutes ces étrangetés composaient une beauté rare, à laquelle la fille de Pétamounoph n'avait pu rester insensible. Depuis le jour où, par hasard, Poëri lui était apparu, accoudé à la galerie du pavillon, sa place favorite, lorsque les travaux de la ferme ne l'occupaient plus, bien des fois elle était revenue, sous prétexte de promenade, et avait fait passer son char sous le balcon de la villa. Mais, bien qu'elle eût revêtu ses plus fines tuniques, mis à son col ses plus précieux gorgerins, cerclé ses poignets de ses bracelets les plus précieusement ciselés, couronné sa tête des plus fraîches fleurs de lotus, allongé jusqu'au temple la ligne noire de ses yeux, avivé sa joue de phare, jamais Poëri n'avait semblé y faire attention. Pourtant Tahoser était bien belle, et l'amour qu'ignorait ou dédaignait le mélancolique habitant de la villa, Pharaon l'eût acheté bien cher. Pour la fille du prêtre, il eût donné Touéa, Taïa, Amensé, Hontréché, ses captives asiatiques, ses vases d'argent et d'or, ses hausses cols de pierres coloriées, ses chars de guerre, son armée invincible, son sceptre, tout, jusqu'à son tombeau, auquel, depuis le commencement de son règne, travaillaient dans l'ombre des milliers d'ouvriers. L'amour n'est pas le même sous les chaudes régions qu'embrase un vent de feu, qu'aux rives hyperborées d'où le calme descend du ciel avec les frimas. Ce n'est pas du sang, mais de la flamme qui circule dans les veines. Aussi Tahoser languissait-elle et défaillait-elle, quoiqu'elle respirât des parfums, s'entourât de fleurs et bût les breuvages qui font oublier. La musique l'ennuyait ou développait outre mesure sa sensibilité. Elle ne prenait plus aucun plaisir aux danses de ses compagnes. La nuit, le sommeil fuyait ses paupières et, haletante, étouffée, la poitrine gonflée de soupirs, elle quittait sa couche somptueuse et s'étendait sur les larges dalles, appuyant sa gorge au dur granit comme pour en aspirer la fraîcheur. La nuit qui suivit la rentrée triomphale du pharaon, Tahoser se sentit si malheureuse, si incapable de vivre, qu'elle ne voulut pas du moins mourir sans avoir tenté un suprême effort. Elle s'enveloppa d'une draperie d'étoffe commune, ne garda qu'un bracelet de bois odorant, tourna une gaze rayée autour de sa tête et, à la première lueur du jour, sans que Nofré, qui rêvait du bel Amosis, l'entendit, elle sortit de sa chambre, traversa le jardin, tira les verrous de la porte d'eau, s'avança vers le quai, éveilla un rameur qui dormait au fond de sa nacelle de papyrus et se fit passer à l'autre rive du fleuve. Chancelante et mettant sa petite main sur son cœur pour en comprimer les battements, elle s'avança vers le pavillon de Poëri. Il faisait grand jour et les portes s'ouvraient pour laisser passer les attelages de bœufs allant au travail et les troupeaux sortant pour la pâture. Tahoser s'agenouilla sur le seuil, porta sa main au-dessus de sa tête avec un geste suppliant. Elle était peut-être encore plus belle dans cette humble attitude, sous ce pauvre accoutrement. Sa poitrine palpitait, des larmes coulaient sur ses joues pâles. Poëri l'aperçut et la prit pour ce qu'elle était en effet, pour une femme bien malheureuse. « Entre, dit-il, entre sans crainte, la demeure est hospitalière. » Fin du chapitre 5, enregistré par Nadine Ekeurt-Boulet à Copenhague en juin 2011. Chapitre 6 du roman de la momie par Théophile Gautier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 6. Tahoser, encouragée par la phrase amicale de Poëri, quitta sa pose suppliante et se releva. Une vive couleur rose avait envahi ses joues tout à l'heure si pâles. La pudeur lui revenait avec l'espoir. Elle rougissait de l'action étrange où l'amour la poussait, et, sur ce seuil que ses rêves avaient franchi tant de fois, elle hésita. Ses scrupules de vierge, étouffés par la passion, renaissaient en présence de la réalité. Le jeune homme, croyant que la timidité, compagne du malheur, empêchait seule Tahoser de pénétrer dans la maison, lui dit d'une voix musicale et douce où perçait un accent étranger « Entre, jeune fille, et ne tremble pas ainsi. La demeure est assez vaste pour t'abriter. Si tu es lasse, repose-toi. Si tu as soif, mes serviteurs t'apporteront de l'eau pure rafraîchie dans des vases d'argile poreuse. Si tu as faim, ils mettront devant toi du pain de froment, des dattes et des figues sèches. » La fille de Pétamounoff, encouragée par ces paroles hospitalières, entra dans la maison qui justifiait l'hiéroglyphe de bienvenue inscrit sur sa porte. Poëri l'emmena dans la chambre du rez-de-chaussée, dont les murailles étaient peintes d'une couche de blanc, sur laquelle des baguettes vertes terminées par des fleurs de lotus dessinaient des compartiments agréables à l'œil. Une fine natte de joncs tressés, où se mélangeaient diverses couleurs formant des symétries, couvrait le plancher. À chaque angle de la pièce, de grosses bottes de fleurs débordaient de longs vases tenus en équilibre par des socles et répandaient leur parfum dans l'ombre fraîche de la chambre. Dans le fond, un canapé bas, dont le bois était orné de feuillages et d'animaux chimériques, étalait les tentations de son large coussin à la fatigue ou à la nonchalance. Deux sièges foncés de roseaux du Nil et dont le dossier se renversait, arc-boutés par des supports, un escabeau de bois creusé en conque, appuyé sur trois pieds, une table oblongue à trois pieds également, bordée d'un cadre d'incrustation, historié au centre d'uréus, de guirlandes et de symboles d'agriculture, et sur laquelle était posé un vaste de lotus rose et bleu, complétait cet ameublement d'une simplicité et d'une grâce champêtre. Poëri s'assit sur le canapé. Tahoser, repliant une jambe sous la cuisse et relevant un genou, s'accroupit devant le jeune homme, qui fixait sur elle un œil plein d'interrogations bienveillantes. Elle était ravissante ainsi. Le voile de gaze dont elle s'enveloppait, retombant en arrière, découvrait les masses opulentes de sa chevelure nouée d'une étroite bandelette blanche et permettait de voir en plein sa physionomie douce, charmante et triste. Sa tunique sans manches montrait jusqu'à l'épaule ses bras élégants et leur laissait toute liberté de gesticulation. « Je me nomme Poëri, dit le jeune homme, et je suis intendant des biens de la couronne, ayant droit de porter dans ma coiffure de cérémonie les cornes de bélier doré. » « Je me nomme Aura, répondit Tahoser, qui d'avance avait arrangé sa petite fable. Mes parents sont morts et leurs biens vendus par les créanciers n'ont laissé que juste de quoi subvenir à leurs funérailles. Je suis donc restée seule et sans ressources. Mais, puisque tu veux bien m'accueillir, je saurai reconnaître ton hospitalité. J'ai été instruite aux ouvrages des femmes, quoique ma condition ne m'obligeât pas à les exercer. Je sais tourner le fuseau, tisser la toile en y mêlant des fils de diverses couleurs, imiter les fleurs et tracer des ornements avec l'aiguille sur les étoffes. Je pourrai même, lorsque tu seras las de tes travaux et que la chaleur du jour t'accablera, te réjouir avec le chant, la harpe ou la mandore. Aura, sois la bienvenue chez Poëri, dit le jeune homme. Tu trouveras ici, sans briser tes forces, car tu sembles délicate, une occupation convenable pour une jeune fille qui connut des temps plus prospères. Il y a parmi mes servantes des filles très douces et très sages qui te seront d'agréables compagnes et qui te montreront comment la vie est réglée dans cette habitation champêtre. En attendant, les jours succéderont aux jours et il en viendra peut-être de meilleurs pour toi. Sinon, tu pourras doucement vieillir chez moi, dans l'abondance et la paix. L'hôte que les dieux envoient est sacré. » Ces paroles prononcées, Poëri se leva comme pour se soustraire aux remerciements de la fausse Hora, qui s'était prosternée à ses pieds et les baisait comme font les malheureux à qui l'on vient d'accorder quelque grâce. Mais l'amoureuse avait remplacé la suppliante, et ses fraîches lèvres roses se détachaient avec peine de ses beaux pieds purs et blancs comme les pieds de jaspe des divinités. Avant de sortir pour aller surveiller les travaux du domaine, Poëri se retourna sur le seuil de l'appartement et dit à Hora, « Reste ici jusqu'à ce que je t'aie désigné une chambre. Je vais t'envoyer de la nourriture par un de mes serviteurs. » Et il s'éloigna d'un pas tranquille, balançant à son poignet le fouet du commandement. Les travailleurs le saluaient en mettant une main sur leur tête et l'autre près de terre. Mais à la cordialité de leur salut, on voyait que c'était un bon maître. Quelquefois il s'arrêtait, donnant un ordre ou un conseil, car il était très savant aux choses de l'agriculture et du jardinage. Puis il reprenait sa marche, jetant les yeux à droite, à gauche, inspectant soigneusement tout. Tahoser, qui l'avait humblement accompagné jusqu'à la porte, et s'était pelotonné sur le seuil, le coude au genou, le menton dans la paume de la main, le suivit du regard jusqu'à ce qu'il se perdît sous les arceaux de feuillage. Depuis longtemps déjà, il avait disparu par la porte des champs, qu'elle le regardait encore. Un serviteur, d'après l'ordre donné en passant par Poëri, apporta sur un plateau une cuisse d'oie, des oignons cuits sous la cendre, un pain de froment et des figues, ainsi qu'un vase d'eau bouché par des feuilles de myrte. « Voici ce que le maître t'envoie. Mange, jeune fille, et reprends des forces. » Tahoser n'avait pas grand faim, mais il était dans son rôle de montrer de l'appétit. Les malheureux doivent se jeter sur les mets que la pitié leur présente. Elle mangea donc et but un long trait d'eau fraîche. Le serviteur s'étant éloigné, elle reprit sa pose contemplative. Mille pensées contraires roulaient dans sa jeune tête. Tantôt, avec sa pudeur de vierge, elle se repentait de sa démarche. Tantôt, avec sa passion d'amoureuse, elle s'applaudissait de son audace. Puis elle se disait « Me voilà, il est vrai, sous le toit de Poëri, je le verrai librement, tous les jours, je m'enivrerai silencieusement de sa beauté, qui est d'un dieu plus que d'un homme, j'entendrai sa voix charmante, pareille à une musique de l'âme, mais lui, qui n'a jamais fait attention à moi lorsque je passais sous son pavillon, couverte de mes habits aux couleurs brillantes, parée de mes plus fins joyaux, parfumée d'essence et de fleurs, montée sur mon char peint et doré que surmonte une ombrelle, entourée comme une reine d'un cortège de serviteurs, remarquera-t-il davantage la pauvre jeune fille suppliante, accueillie par pitié et couverte d'étoffes communes? Ce que mon luxe n'a pu faire, ma misère le fera-t-elle? Peut-être, après tout, suis-je laide, et n'offrirait-elle une flatteuse lorsqu'elle prétend que, de la source inconnue du Nil jusqu'à l'endroit où il se jette dans la mer, il n'y a pas de plus belle fille que sa maîtresse? Non, je suis belle. Les yeux ardents des hommes me l'ont dit mille fois, et surtout les airs dépités et les petites moues dédaigneuses des femmes qui passaient près de moi. Poëri, qui m'a inspiré une si folle passion, m'aimera-t-il jamais? Il eût reçu tout aussi bien une vieille femme au front coupé de rides, à la poitrine décharnée, empaquetée de hideux haillons et les pieds gris de poussière. Tout autre que lui aurait reconnu à l'instant, sous le déguisement d'Hora, Tahoser, la fille du grand prêtre Pétamounoph. Mais il n'a jamais abaissé son regard sur moi, pas plus que la statue d'un dieu de basalte sur les dévots qui lui offrent des quartiers d'antilope et des bouquets de lotus. Ces réflexions abattaient le courage de Tahoser. Puis elle reprenait confiance et se disait que sa beauté, sa jeunesse, son amour, finiraient bien par attendrir ce cœur insensible. Elle serait si douce, si attentive, si dévouée, elle mettrait tant d'art et de coquetterie à sa pauvre toilette que certainement, Poëri n'y résisterait pas. Alors elle se promettait de lui découvrir que l'humble servante était une fille de haut rang, possédant des esclaves, des terres et des palais, et elle s'arrangeait en rêve, après la félicité obscure, une vie de bonheur splendide et rayonnant. « D'abord, soyons belles, » dit-elle en se levant et en se dirigeant vers une des pièces d'eau. Arrivée là, elle s'agenouilla sur la margelle de pierre, lava son visage, son col et ses épaules. L'eau agitée, dans son miroir brisé en mille morceaux, lui montrait son image confuse et tremblante, qui lui souriait comme à travers une gaze verte, et les petits poissons, voyant son ombre et croyant qu'on allait leur jeter quelques miettes, s'approchaient du bord en troupe. Elle cueillit deux ou trois fleurs de lotus qui s'épanouissaient à la surface du bassin, en tortilla la tige autour de la bandelette de ses cheveux, et se composa une coiffure que tout l'art de Nofré n'eût pas égalée en vidant les coffres à bijoux. Quand elle eut fini et qu'elle se releva fraîche et radieuse, un ibis familier, qu'il avait gravement regardé faire, se haussa sur ses longues pattes, tendit son long col et battit deux ou trois fois des ailes, comme pour l'applaudir. Sa toilette achevée, Tahoser revint prendre sa place sur la porte du pavillon en attendant Poëri. Le ciel était d'un bleu profond. La lumière frissonnait en ondes visibles dans l'air transparent. Des arômes enivrants se dégageaient des fleurs et des plantes. Les oiseaux sautillaient à travers les rameaux, picorant quelques baies. Les papillons se poursuivaient et dansaient sur leurs ailes. À ce riant spectacle se mêlait celui de l'activité humaine, qui l'égayait encore en lui prêtant une âme. Les jardiniers allaient et venaient. Des serviteurs rentraient, chargés de bottes d'herbe et de paquets de légumes. D'autres, debout au pied des figuiers, recevaient dans des corbeilles les fruits que leur jetaient les singes dressés à la cueillette et juchés sur les hautes branches. Tahoser contemplait avec ravissement cette fraîche nature dont la paix gagnait son âme, et elle se dit « Oh, qu'il serait doux d'être aimée ici, dans la lumière, les parfums et les fleurs !» Poëri reparut. Il avait terminé son inspection, et il se retira dans sa chambre pour laisser passer les heures brûlantes du jour. Tahoser le suivit timidement, se tint près de la porte, prête à sortir au moindre geste, mais Poëri lui fit signe de rester. Elle s'avança de quelques pas et s'agenouilla sur la natte. « Tu m'as dit, Aura, que tu savais jouer de la mandore. Prends cet instrument accroché au mur, fais résonner les cordes et chante-moi quelque ancien air bien doux, bien tendre et bien lent. Le sommeil est plein de beaux rêves, qui vient bercé par la musique. » La fille du prêtre décrocha la mandore, s'approcha du lit de repos sur lequel Poëri s'était étendu, appuyant la tête au chevet de bois creusé en demi-lune, allongea son bras jusqu'au bout du manche de l'instrument, dont elle pressait la caisse sur son cœur ému, laissa errer sa main le long des cordes et en tira quelques accords. Puis elle chanta d'une voix juste, quoique un peu tremblante, un vieil air égyptien, vague soupir des aïeux transmis de génération en génération, où revenait toujours une même phrase d'une monotonie pénétrante et douce. « En effet, » dit Poëri, en tournant ses prunelles d'un bleu sombre vers la jeune fille, « tu ne m'avais pas trompé. Tu connais les rythmes comme une musicienne de profession, et tu pourrais exercer ton art dans le palais des rois. Mais tu donnes à ton chant une expression nouvelle. Cet air que tu récites, on dirait que tu l'inventes, et tu lui prêtes un charme magique. Ta physionomie n'est plus ce qu'elle était ce matin. Une autre femme semble apparaître à travers toi comme une lumière derrière un voile. Qui es-tu ? » ?»«
Je suis Aura, » répondit Tahoser. « Ne t'ai-je pas déjà raconté mon histoire ? Seulement j'ai essuyé de mon visage la poussière de la route, rajusté les plis de ma robe fripée et mis un brin de fleurs dans mes cheveux. Si je suis pauvre, ce n'est pas une raison pour être laide. Et les dieux parfois refusent la beauté aux riches. Mais te plaît-il que je continue ?
Oui, répète cet air qui me fascine, m'engourdit et m'ôte la mémoire comme ferait une coupe de népenthès. Répète-le, jusqu'à ce que le sommeil descende avec l'oubli sur mes paupières. » Les yeux de Poëri, fixés d'abord sur Tahoser, se fermèrent bientôt à demi, puis tout à fait. La jeune fille continuait à faire bourdonner les cordes de la mandore et répétait d'une voix de plus en plus basse le refrain de sa chanson. Poëri dormait. Elle s'arrêta et se mit à l'éventer avec un éventail de feuilles de palmier jetées sur la table. Poëri était beau,
et le sommeil donnait à ses traits purs une ineffable expression de langueur et de tendresse. Ses longs cils abaissés sur ses joues semblaient lui voiler quelque vision céleste, et ses belles lèvres rouges à demi ouvertes frémissaient, comme si elles eussent adressé de muettes paroles à un être invisible. Après une longue contemplation, enhardie par le silence et la solitude, Tahoser, éperdue, se pencha sur le front du dormeur, retenant son souffle, pressant son cœur de sa main, et y posa un baiser peureux, furtif, ailé. Puis elle se releva toute honteuse et toute rougissante. Le dormeur avait senti vaguement, à travers son rêve, les lèvres de Tahoser. Il poussa un soupir et dit en hébreu « Ô Ra'hel, bien-aimée Ra'hel !» Heureusement, ces mots d'une langue inconnue ne présentaient aucun sens à la fille de Pétamounoph, et elle reprit l'éventail de feuilles de palmier, espérant et craignant que Poëri se réveillât. Fin du chapitre 6, enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en juin 2011. Chapitre 7 du roman de la momie par Théophile Gautier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 7. Lorsque le jour parut, Nofré, qui couchait sur un petit lit au pied de sa maîtresse, fut surprise de ne pas entendre Tahoser l'appeler comme d'habitude en frappant ses mains l'une contre l'autre. Elle se souleva sur son coude et vit que le lit était vide. Cependant, les premiers rayons du soleil, atteignant la frise du portique, commençaient seulement à jeter sur le mur l'ombre des chapiteaux et le haut du fût des colonnes. Tahoser, ordinairement, n'était pas si matinale, et elle ne quittait guère sa couche sans l'aide de ses femmes. Jamais non plus elle ne sortait qu'après avoir fait réparer dans sa coiffure le désordre de la nuit et versé sur son beau corps des affusions d'eau parfumée qu'elle recevait à genoux, les bras repliés devant sa poitrine. Nofré, inquiète, jeta sur elle une chemise transparente, plaça ses pieds dans des sandales en fibre de palmier et se mit à la recherche de sa maîtresse. Elle la chercha d'abord sous les portiques des deux cours, pensant que, ne pouvant dormir, Tahoser était peut-être allée respirer la fraîcheur de l'aube le long de ses promenoirs intérieurs. Tahoser n'y était pas. « Visitons le jardin ?» se dit Nofré. « Elle aura peut-être eu la fantaisie de voir briller la rosée nocturne sur les feuilles des plantes et d'assister une fois au réveil des fleurs. » Le jardin, battu en tous sens, ne contenait que la solitude. Allée, tonnelle, berceau, bosquet, Nofré interrogea tout sans succès. Elle entra dans le kiosque situé au bout de la treille, point de Tahoser. Elle courut à la pièce d'eau, où sa maîtresse pouvait avoir eu le caprice de se baigner, comme elle le faisait quelquefois avec ses compagnes, sur l'escalier de granit descendant du bord du bassin jusqu'à un fond de sable tamisé. Les larges feuilles de nymphéa flottaient à la surface et ne paraissaient pas avoir été dérangées. Les canards plongeant leur col d'azur dans l'eau tranquille y faisaient seuls des rides, et ils saluèrent Nofré de leurs cris joyeux. La fidèle suivante commençait à s'alarmer sérieusement. Elle donna l'éveil à toute la maison. Les esclaves et les servantes sortirent de leurs cellules et, mis au fait par Nofré de l'étrange disparition de Tahoser, se livrèrent aux perquisitions les plus minutieuses. Ils montèrent sur les terrasses, fouillèrent chaque chambre, chaque réduit, tous les endroits où elle pouvait être et ensuite tous ceux où elle ne pouvait pas être. Nofré, dans son trouble, alla jusqu'à ouvrir les coffres à serrer les robes, les écrins qui renfermaient les bijoux, comme si ces boîtes eussent pu contenir sa maîtresse. Tahoser n'était décidément pas dans la maison. Un vieux serviteur d'une prudence consommée eut l'idée d'inspecter le sable des allées et d'y chercher les empreintes de sa jeune maîtresse. Les lourds verrous de la porte de ville étaient à leur place et faisaient repousser la supposition que Tahoser fût sortie de ce côté. Il est vrai que Nofré avait parcouru étourdiment tous les sentiers, y marquant la trace de ses sandales. Mais, en se penchant vers le sol, le vieux Souhem ne tarda pas à reconnaître, parmi les pas de Nofré, une légère dépression qui dessinait une semelle étroite, mignonne, appartenant à un pied beaucoup plus petit que le pied de la suivante. Il suivit cette trace, qui le mena, en passant sous la tonnelle, du pylône de la cour à la porte d'eau. Les verrous, comme il en fit la remarque à Nofré, avaient été tirés, et les battants ne joignaient que par leur poids. Donc la fille de Pétamounoff s'était envolée par là. Plus loin, la trace se perdait. Le quai de briques n'avait gardé aucune empreinte. Le batelier qui avait passé Tahoser n'était pas revenu à sa station. Les autres dormaient et, interrogés, répondirent qu'ils n'avaient rien vu. Un seul dit qu'une femme, pauvrement vêtue et semblant appartenir à la dernière classe du peuple, s'était rendue de grand matin de l'autre côté du fleuve, au quartier des Memnonia, sans doute pour accomplir quelque rite funèbre. Ce signalement, qui ne se rapportait en aucune façon à l'élégante Tahoser, dérouta complètement les idées de Nofré et de Souhem. Ils rentrèrent dans la maison, tristes et désappointés. Les serviteurs et les servantes s'assirent à terre dans des attitudes de désolation, laissant pendre une de leurs mains, la paume tournée vers le ciel, et mettant l'autre sur leur tête, et tous s'écrièrent comme un cœur plaintif « Malheur ! Malheur ! Malheur ! La maîtresse est partie !»« Par Homs, chien des enfers, je la retrouverai !» dit le vieux Souhem. « Dussé-je pénétrer vivant jusqu'au fin fond de la région occidentale vers laquelle voyagent les morts. C'était une bonne maîtresse. Elle nous donnait la nourriture en abondance, n'exigeait pas de nous des travaux excessifs, et ne nous faisait battre qu'avec justice et modération. Son pied n'était pas lourd à nos nuques inclinées, et chez elle l'esclave pouvait se croire libre. « Malheur ! Malheur ! Malheur !» répétèrent hommes et femmes en se jetant de la poussière sur la tête. « Hélas, chère maîtresse, qui sait où tu es maintenant ?» dit la fidèle suivante, laissant couler ses larmes. « Peut-être un magicien t'a fait sortir de ton palais par quelque conjuration irrésistible pour accomplir sur toi un odieux maléfice. Il lacérera ton beau corps, en retirera le cœur par une incision, comme un parachute, jettera tes restes à la voracité des crocodiles, et ton âme mutilée ne retrouvera au jour de la réunion que des lambeaux informes. Tu n'iras pas rejoindre au fond des syringes, dont le colchite garde le plan, la momie peinte et dorée de ton père, le grand prêtre Pétamounoff, dans la chambre funèbre creusée pour toi. « Calme-toi, Nofré, » dit le vieux Souhem. « Ne nous désespérons pas trop d'avance. Il se peut que Tahoser rentre bientôt. Elle a cédé sans doute à quelque fantaisie qui nous est inconnue, et tout à l'heure, nous allons la voir reparaître gaie et souriante, tenant des fleurs d'eau dans ses mains. » Passant le coin de sa robe sur ses paupières, la suivante fit un signe d'adhésion. Souhem s'accroupit, ployant ses genoux comme ces images de cynocéphales taillées vaguement dans un bloc carré de basalte et, serrant ses tempes entre ses paumes sèches, parut réfléchir profondément. Sa figure, d'un brun rougeâtre, ses orbites enfoncées, ses mâchoires proéminentes, ses joues plissées de grandes rides, ses cheveux roides encadrant son masque comme des poils, complétaient sa ressemblance avec les dieux à tête simiesque. Ce n'était pas un dieu, certes, mais il avait bien l'air d'un singe. Le résultat de sa méditation, anxieusement attendue par Nofré, fut celui-ci. « La fille de Pétamounoff est amoureuse. »« Qui te l'a dit ?» s'écria Nofré, qui croyait lire seul dans le cœur de sa maîtresse. « Personne, mais Tahoser est très belle. Elle a vu déjà 16 fois la crue et la retraite du Nil. 16 est le nombre emblématique de la volupté, et depuis quelque temps elle appelait à des heures étranges ses joueuses de harpe, de mandore et de flûte, comme quelqu'un qui veut calmer le trouble de son cœur par de la musique. Tu parles très bien, et la sagesse habite ta vieille tête chauve. Mais comment as-tu appris à connaître les femmes, toi qui ne fais que piocher la terre du jardin et porter des vases d'eau sur ton épaule ? L'esclave élargit ses lèvres dans un sourire silencieux et montra 2 rangées de longues dents blanches capables de broyer des noyaux de datte. Cette grimace voulait dire « Je n'ai pas toujours été vieux et captif. » Illuminé par la suggestion de Souhem, Nofré pensa tout de suite au bel Amosis, l'oëris de Pharaon, qui passait si souvent au bas de la terrasse et qui avait si bonne grâce sur son char de guerre au défilé triomphal. Comme elle l'aimait elle-même, sans bien s'en rendre compte, elle prêtait ses sentiments à sa maîtresse. Elle revêtit une robe moins légère et se rendit à la demeure de l'officier. C'était là, imaginait-elle, que devait immanquablement se trouver Tahoser. Le jeune Oëris était assis au fond de sa chambre sur un siège bas. Au mur se groupaient en trophées différentes armes. La tunique de cuir écaillée de plaquettes de bronze où se lisait gravé le cartouche du pharaon, le poignard d'airain à manche de jade évidé pour laisser passer les doigts, la hache de bataille à tranchant de silex, le harpé à lame courbe, le casque à double plume d'autruche, l'arc triangulaire et les flèches empennées de rouge. Sur des socles étaient posés les gorgerins d'honneur et quelques coffres ouverts montraient le butin pris à l'ennemi. Quand il vit Nofré, qu'il connaissait bien et qui se tenait debout sur le seuil, Ahmosis éprouva un vif mouvement de plaisir. Ses joues brunes se colorèrent, ses muscles tressaillirent, son cœur palpita. Il crut que Nofré lui apportait quelque message de la part de Tahoser, bien que la fille du prêtre n'eût jamais répondu à ses œillades. Mais l'homme à qui les dieux ont fait le don de la beauté s'imagine aisément que toutes les femmes se prennent d'amour pour lui. Il se leva et fit quelques pas vers Nofré, dont le regard inquiet scrutait les recoins de la chambre pour s'assurer de la présence ou de l'absence de Tahoser. « Qui t'amène ici, Nofré ?» dit Ahmosis, voyant que la jeune suivante, préoccupée de sa recherche, ne rompait pas le silence. « Ta maîtresse va bien, je l'espère, car il me semble l'avoir vue hier à l'entrée du pharaon. »
« Si ma maîtresse va bien, tu dois le savoir mieux que tout autre, » répondit Nofré, « car elle s'est enfuie de la maison sans confier ses projets à personne, et l'asile qu'elle s'est choisi, j'aurais juré par Hathor que tu le connaissais. »«
Elle a disparu. Que me dis-tu là ?»
fit Ahmosis avec une surprise qui certes n'était pas jouée. « Je croyais qu'elle t'aimait, » dit Nofré, « et quelquefois les jeunes filles les plus retenues font des coups de tête. Elle n'est donc pas ici ?»
Le Dufré, qui voit tout, sait où elle est. Mais aucun de ses rayons terminés par des mains ne l'a atteinte chez moi. Regarde plutôt et visite les chambres.
Je te crois, Ahmosis, et je me retire, car si Tahoser était venu, tu ne le cacherais pas à la fidèle Nofré, qui n'eût pas mieux demandé que de servir vos amours. Tu es beau, elle est libre, riche et vierge. Les dieux eussent vu cette union avec plaisir. »
Nofré revint à la maison plus inquiète et plus bouleversée que jamais. Elle craignait qu'on ne soupçonnât les serviteurs d'avoir tué Tahoser pour s'emparer de ses richesses et qu'on ne voulût leur faire avouer sous le bâton ce qu'ils ne savaient pas. Pharaon, de son côté, pensait aussi à Tahoser. Après avoir fait les libations et les offrandes exigées par le rituel, il s'était assis dans la cour intérieure du gynécée et rêvait, sans prendre garde aux ébats de ses femmes, qui, nues et couronnées de fleurs, se jouaient dans la transparence de la piscine, se jetant de l'eau et poussant des éclats de rire grêles et sonores pour attirer l'attention du maître, qui n'avait pas décidé, contre son habitude, quelle serait la reine en faveur cette semaine-là. C'était un tableau charmant que ces belles femmes dont les corps sveltes luisaient sous l'eau comme des statues de jaspe submergées, dans ce cadre d'arbustes et de fleurs, au milieu de cette cour entourée de colonnes peintes de couleurs éclatantes, à la pure lumière d'un ciel d'azur que traversait de temps à autre un ibis, le bec au vent et les pattes tendues en arrière. Amensé et Touéa, lasses de nager, étaient sorties de l'eau et, agenouillées au bord du bassin, étalaient au soleil pour la sécher leur épaisse chevelure noire, dont les mèches d'ébène faisaient paraître leur peau plus blanche encore. Les dernières perles du bain roulaient sur leurs épaules lustrées et sur leurs bras polis comme le jade. Des servantes les frottaient d'essences et d'huiles aromatiques, tandis qu'une jeune Éthiopienne leur offrait à respirer le calice d'une large fleur. On eût dit que l'ouvrier qui avait sculpté les bas-reliefs décoratifs des salles du gynécée avait pris ces groupes pleins de grâce pour modèles. Mais Pharaon n'eût pas regardé d'un œil plus froid le dessin incisé dans la pierre. Juché sur le dossier du fauteuil, le singe privé croquait des dattes et faisait claquer ses dents. Contre les jambes du maître, le chat favori se frottait en arrondissant le dos.
le nain difforme tirait la queue du singe et les moustaches du chat, dont l'un glapissait et l'autre jurait, ce qui ordinairement déridait Sa Majesté. Mais Sa Majesté n'était pas ce jour-là en train de rire. Elle écarta le chat, fit descendre le singe du fauteuil, donna un coup de poing sur la tête du nain et se dirigea vers les appartements de granit. Chacune de ces chambres était formée de blocs d'une grandeur prodigieuse et fermée par des portes de pierre qu'aucune puissance humaine n'eût pu forcer, à moins de savoir le secret qui les faisait s'ouvrir. Dans ces chambres étaient enfermées les richesses du pharaon et le butin enlevé aux nations conquises. Il y avait là des lingots de métaux précieux, des couronnes d'or et d'argent, des gorgerins et des bracelets d'émaux cloisonnés, des boucles d'oreilles reluisant comme le disque de Mouy, des colliers à rang septuple de cornaline, de lapis-lazuli, de jaspe sanguin, de perles, d'agate, de sardoine, d'onyx, des cercles finement travaillés pour les jambes, des ceintures à plaques d'or gravées d'hiéroglyphes, des bagues à chatons de scarabée, des fils de poissons, de crocodiles et de cœurs en estampage d'or, des serpents d'émail se repliant plusieurs fois sur eux-mêmes, des vases de bronze, des buires d'albâtre rubanées, de verre bleu où se tordaient des spirales blanches, des coffrets de terre émaillée, des boîtes en bois de santal affectant des formes bizarres et chimériques, des monceaux d'aromates de tous les pays, des blocs d'ébène, des étoffes précieuses si fines que la pièce eût passé par un anneau, des plumes d'autruche noires et blanches ou coloriées de diverses teintes, des défenses d'éléphants d'une monstrueuse grosseur, des coupes en or, en argent, en verre doré, des statuettes excellentes, tant pour la matière que pour le travail. Dans chaque chambre, le pharaon fit prendre la charge d'un brancard porté par deux esclaves robustes de Couche et de Chéteau, et, frappant des mains, il appela Timopht, le serviteur qui avait suivi Tahoser, et lui dit « Fais porter cela à Tahoser, fille de Pétamounoph, de la part de Pharaon. » Timopht se mit en tête du cortège, qui traversa le Nil sur une cange royale, et bientôt les esclaves arrivèrent avec leur charge à la maison de Tahoser. « Pour Tahoser, de la part de Pharaon, » dit Timopht en heurtant la porte. À la vue de ces trésors, Nofré manqua de s'évanouir, moitié peur, moitié éblouissement. Elle craignait que le roi ne la fît mourir lorsqu'il apprendrait que la fille du prêtre n'était plus là. « Tahoser s'en est allée, » répondit-elle en tremblant à Timopht, « et, je le jure par les quatre oies sacrées, Amset, Sis, Soumaouts et Kepchniv, qui volent aux quatre points du vent, j'ignore où elle est. » Pharaon, préféré de Fré, favori d'Amon-Ra, a envoyé ses présents, je ne puis les remporter. Garde-les jusqu'à ce qu'elle se retrouve. Tu m'en réponds sur ta tête. Fais-les serrer dans des chambres et garder par des serviteurs fidèles, répondit l'envoyé du roi. Quand Timopht revint au palais et que, prosterné, les coudes serrés au flanc, le front dans la poussière, il dit que Tahoser était disparue, le roi entra en une grande fureur et il frappa si violemment de son sceptre contre le pavé que la dalle se fendit. Fin du chapitre 7. Enregistré par Nadine Ekerd-Boulet à Copenhague en juin 2011.
Chapitre 8 du roman de la momie par Théophile Gautier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 8. Tahoser, il faut le dire, ne pensait guère à Nofré, sa suivante favorite, ni à l'inquiétude que devait causer son absence. Cette chère maîtresse avait tout à fait oublié sa belle maison de Thèbes, ses serviteurs et ses parures, chose bien difficile et bien incroyable pour une femme. La fille de Pétamounoph ne se doutait aucunement de l'amour du pharaon. Elle n'avait pas remarqué l'œillade chargée de volupté tombée sur elle du haut de cette majesté que rien sur terre ne pouvait émouvoir. L'eût-elle vue, elle eût déposé ce désir royal en offrande, avec toutes les fleurs de son âme, aux pieds de Poëri. Tout en repoussant de l'orteil son fuseau pour le faire remonter le long du fil, car on lui avait donné cette tâche,
elle suivait du coin de l'œil tous les mouvements du jeune Hébreu et l'enveloppait de son regard comme d'une caresse. Elle jouissait silencieusement du bonheur de rester près de lui, dans le pavillon dont il lui avait permis l'accès. Si Poëri avait tourné la tête vers elle, il eût été frappé sans doute de la lumière humide de ses yeux, des rougeurs subites qui passaient sur ses belles joues comme des nuages roses, du battement profond de son cœur qu'on devinait au tremblement de son sein. Mais, assis à la table, il se penchait sur une feuille de papyrus où, puisant de l'encre dans une tablette d'albâtre creusée, il inscrivait des comptes en chiffres démotiques à l'aide d'un roseau. Poëri comprenait-il l'amour si visible de Tahoser pour lui? Ou bien, pour quelque raison cachée, faisait-il semblant de ne pas s'en apercevoir? Ses manières envers elle étaient douces, bienveillantes, mais réservées, comme s'il eût voulu prévenir ou refouler quelque aveu importun auquel il lui eût été bien pénible de répondre. Pourtant, la fausse aura était bien belle. Ses charmes, trahis par la pauvreté de sa toilette, n'en avaient que plus de puissance. Et, comme on voit aux heures les plus chaudes du jour une vapeur lumineuse frissonner sur la terre luisante, une atmosphère d'amour frissonnait autour d'elle. Sur ses lèvres entr'ouvertes, sa passion palpitait comme un oiseau qui veut prendre son vol. Et bas, bien bas, quand elle était sûre de ne pas être entendue, elle répétait comme une monotone cantilène « Poëri, je t'aime !» On était au temps de la moisson, et Poëri sortit pour inspecter les travailleurs. Tahoser, qui ne pouvait pas plus s'en détacher que l'ombre ne peut se détacher du corps, le suivit timidement, craignant qu'il ne lui enjoignît de rester à la maison. Mais le jeune homme lui dit d'une voix où ne perçait nul accent de colère, le chagrin se soulage à la vue des paisibles travaux de l'agriculture, et, si quelque douloureux souvenir de la prospérité évanouie oppresse ton âme, il se dissipera au spectacle de cette activité joyeuse. Ces choses doivent être nouvelles pour toi, car ta peau, que n'a jamais baisé le soleil, tes pieds délicats, tes mains fines, l'élégance avec laquelle tu drapes le morceau d'étoffe grossière qui te sert de vêtement, me montrent, à n'en pouvoir douter, que tu as toujours habité les villes, au sein des recherches et du luxe. Viens donc et sieds-toi, tout en tournant ton fuseau, à l'ombre de cet arbre où les moissonneurs ont suspendu, pour la rafraîchir, l'outre qui contient leur boisson. Tahoser obéit et se plaça sous l'arbre, les bras croisés sur les genoux et les genoux au menton. De la muraille du jardin, la plaine s'étendait jusqu'aux premiers escarpements de la chaîne libyque, comme une mer jaune, où le moindre souffle d'air creusait des vagues d'or. La lumière était si intense que le ton d'or du blé blanchissait par places et prenait des teintes d'argent. Dans l'opulent limon du Nil, les épis avaient poussé vigoureux, drus et hauts comme des javelines, et jamais plus riche moisson ne s'était déployée au soleil, flambante et crépitante de chaleur. Il y avait de quoi remplir jusqu'au faîte la ligne de greniers voûtés qui s'arrondissait près des celliers. Les travailleurs étaient depuis longtemps déjà à l'ouvrage, et l'on voyait de loin émerger des vagues du blé leurs têtes crépues ou rases, coiffées d'un morceau d'étoffe blanche, et leurs torses nus, couleur de brique cuite. Ils se penchaient et se relevaient, avec un mouvement régulier, sciant le blé de leurs faucilles au-dessous de l'épi, avec autant de régularité que s'ils eussent suivi une ligne tirée au cordeau. Derrière eux marchaient dans les sillons des glaneurs, avec des couffes de sparterie où ils serraient les épis moissonnés et qu'ils portaient sur leur épaule ou suspendus à une barre transversale, aidés par un compagnon, à des meules placées de distance en distance. Quelquefois les moissonneurs essoufflés s'arrêtaient, reprenaient haleine, et, rejetant leurs faucilles sous leurs bras droits, buvaient un coup d'eau. Puis ils se remettaient en hâte à l'ouvrage, craignant le bâton du contremaître. Les épis récoltés s'étalaient sur l'air par couches égalisées à la fourche et légèrement relevées au bord par les nouveaux paniers qu'on y versait. Alors Poëri fit signe au bouvier de faire avancer ses bêtes. C'étaient de superbes animaux, aux longues cornes évasées comme la coiffure d'Isis, aux garrots élevés, aux fanons puissants, aux jambes sèches et nerveuses. La marque du domaine, empreinte au fer chaud, estampillait leurs hanches. Ils marchaient gravement, assujettis sous un joug horizontal reliant leurs quatre têtes. On les poussa sur l'air. Activés par le fouet à double mèche, ils se mirent à piétiner circulairement, faisant jaillir sous leurs sabots fourchus le grain de l'épi. Le soleil brillait sur leurs poils luisants, et la poussière qu'ils soulevaient leur montait aux naseaux. Aussi, au bout d'une vingtaine de tours, s'appuyaient-ils les uns contre les autres et, malgré les lanières sifflantes qui voltigeaient sur leurs flancs, ralentissaient-ils sensiblement le pas. Pour les encourager, le conducteur, qui les suivait en tenant par la queue la bête sous la main, entonna, sur un rythme joyeux et vif, la vieille chanson des bœufs. Tournez pour vous-même, ô bœufs, tournez pour vous-même, des mesures pour vous, des mesures pour vos maîtres. Et l'attelage ranimé se portait en avant et disparaissait dans un nuage de poussière blonde où scintillaient des étincelles d'or. La besogne des bœufs terminée, vinrent des serviteurs qui, armés d'écopes de bois, élevaient le blé en l'air et le laissaient retomber pour le séparer des pailles, des barbes et des cosses. Le blé ainsi vanné était mis dans des sacs dont un grammate prenait note et porté au grenier où conduisaient des échelles. Tahoser, à l'ombre de son arbre, prenait plaisir à ce spectacle plein d'animation et de grandeur, et souvent sa main distraite oubliait de tordre le fil. La journée s'avançait, et déjà le soleil, levé derrière Thèbes, avait franchi le Nil et se dirigeait vers la chaîne libyque, derrière laquelle son disque se couche chaque soir. C'était l'heure où les animaux reviennent des champs et rentrent à l'étable. Elle assista, près de Poëri, à ce grand défilé pastoral. On vit d'abord s'avancer un immense troupeau de bœufs, les uns blancs, les autres roux. Ceux-ci noirs et mouchetés de points clairs, ceux-là pis, quelques-uns rayés de zébrures sombres. Il y en avait de tout pelage et de toutes nuances. Ils passaient levant leurs mufles lustrés, d'où pendaient des filaments de bave, ouvrant leurs grands yeux doux. Les plus impatients, sentant l'étable, se dressaient quelques instants à demi et apparaissaient au-dessus de la foule cornue, avec laquelle, en retombant, ils se confondaient bientôt. Les moins adroits, devancés par leurs compagnons, poussaient de longs meuglements plaintifs, comme pour protester. Près des bœufs marchaient les gardiens avec leurs fouets et leurs cordes roulées. Arrivés devant Poëri, ils s'agenouillaient et, les coudes au flanc, touchaient la terre du front en signe de respect. Des grammates inscrivaient le nombre des têtes de bétail sur des tablettes. Aux bœufs succédèrent des ânes trottinant et ruant sous le bâton d'âniers à tête rase et vêtus d'une simple ceinture de toile dont le bout retombait entre leurs cuisses. Ils défilaient, secouant leurs longues oreilles, martelant la terre de leurs petits sabots durs. Les âniers firent la même génuflexion que les bouviers, et les grammates marquèrent aussi le chiffre exact de leurs bêtes. Ce fut ensuite le tour des chèvres. Elles arrivaient précédées de leurs boucs et faisant trembler de plaisir leurs voix cassées et grêles. Les chevriers avaient grand-peine à contenir leur pétulance et à ramener au gros de l'armée les maraudeuses qui s'écartaient. Elles furent comptées comme les bœufs et les ânes, et, avec le même cérémonial, les bergers se prosternèrent aux pieds de Poëri. Le cortège était fermé par des oies, qui, fatiguées de la route, se dandinaient sur leurs larges pattes, battaient bruyamment des ailes, allongeaient leur col et poussaient des piaillements rauques. Leur nombre fut inscrit, et les tablettes remises à l'inspecteur du domaine. Longtemps après que bœufs, ânes, chèvres, oies étaient rentrés, une colonne de poussière, que le vent ne pouvait parvenir à balayer, s'élevait lentement dans le ciel. « Eh bien, Hora, » dit Poëri à Tahoser, « la vue de ces moissonneurs et de ces troupeaux t'a-t-elle amusé ? Ce sont les plaisirs des champs. Nous n'avons pas ici, comme à Thèbes, des joueurs de harpe et des danseuses. Mais l'agriculture est sainte, elle est la mère nourrice de l'homme, et celui qui sème un grain de blé fait une action agréable aux dieux. Maintenant, va prendre ton repas avec tes compagnes. Moi, je rentre au pavillon, et je vais calculer combien de boissons de froment ont rendu les épis. » Tahoser mit une main par terre et l'autre sur sa tête en signe d'acquiescement respectueux et se retira. Dans la salle du repas, riaient et babillaient plusieurs jeunes servantes, mangeant des oignons crus, des gâteaux de doura et des dattes. Un petit vase de terre plein d'huile, où trempait une mèche, les éclairait, car la nuit était venue et répandait une lueur jaune sur leurs joues brunes et leurs torses fauves que ne voilait aucun vêtement. Les unes étaient assises sur de simples sièges de bois, les autres adossées au mur, un genou replié. Où le maître peut-il aller ainsi chaque soir ? Dit une petite fille à l'air malicieux, en épluchant une grenade avec de jolis mouvements de singe. Le maître va où il veut, répondit une grande esclave qui mâchait des pétales de fleurs. Ne faut-il pas qu'il te rende des comptes ? Ce n'est pas toi, en tout cas, qui le retiendras ici.
Aussi bien moi qu'une autre, répondit l'enfant piqué.
La grande fille haussa les épaules. Aura elle-même, qui est plus blanche et plus belle que nous toutes, n'y parviendrait pas. Quoiqu'il porte un nom égyptien et soit au service du pharaon, il appartient à cette race barbare d'Israël. Et, s'il sort la nuit, c'est sans doute pour assister au sacrifice d'enfants que célèbrent les Hébreux dans les endroits déserts où la chouette piaule, où l'hyène glapit, où la vipère siffle. Tahoser quitta doucement la chambre sans rien dire, et se tapit dans le jardin, derrière une touffe de mimosa. Et, au bout de 2 heures d'attente, elle vit Poëri sortir dans la campagne. Légère et silencieuse comme une ombre, elle se mit à le suivre. Fin du chapitre 8. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en juin 2011.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouth-watering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.